Tiens, je vais prendre un micro. Tu parles de langue.
Maintenant, la parole est à Monique Sicard. Voilà, elle va nous parler de déco, écrire et photographier, technique et esthétique.
Oui, merci Anne, merci Pierre-Marc de nous avoir invités ce matin. Voilà, en fond d'écran, vous avez une image des travaux qui sont entrepris par l'ITEM sur les manuscrits de Flaubert. Voilà, ce sont les travaux de Deborah Boltz, qui vous donne une idée un petit peu de ce qui est fait dans notre équipe de recherche, de manière précise. Alors, personnellement, vous l'avez compris, je suis plutôt spécialiste de photographie et de l'image. Et je vais commencer par une citation de Roland Barthes. On dirait que la photographie emporte toujours son référent avec elle, tous deux frappés de la même immobilité amoureuse ou funèbre, au sein même du monde en mouvement. Ils sont collés l'un à l'autre, non, la photographie et son objet, ils sont collés l'un à l'autre, membre par membre, comme le condamné enchaîné à un cadavre dans certains supplices, ou encore semblable à ces couples de poissons, les requins, je crois, au dire de Michelet, qui naviguent de conserve, mais comme unis par un coït éternel. Voilà, nous dit Roland Barthes, il est très difficile de dissocier le signifiant du signifié, pour parler schématiquement. Il est très difficile, mais c'est pourtant cela qu'il faudrait faire. Cette facilité, donc pas de photo sans quelque chose ou quelqu'un, entraîne, dit-il, la photographie dans le désordre immense des objets, de tous les objets du monde. Il faudrait percevoir le signifiant photographique, n'est pas impossible, écrit-il. Des professionnels le font, mais cela demande un acte second de savoir ou de réflexion. Donc, je relève le défi avec vous. Je propose donc que nous nous comportions en professionnels de la photographie, c'est-à-dire en spécialistes de son histoire, de sa philosophie, de ses techniques, de ses usages, and so on. Voilà. Et nous avons déjà entrepris à l'ITEM des travaux sur les photographes écrivains, donc avec Alain Pagès sur Zola. Nous allons, nous prospectons maintenant en direction de Ducamp et Flaubert avec Anne Herschberg et Pierre-Marc de Biasi. Et personnellement, j'ai travaillé sur la correspondance de Nicéphore Niépce, Niépce comme photographe, mais également comme écrivain. Voilà, nous devons constater par ailleurs que rares sont les chercheurs qui ont pris en compte sur le plan théorique la nature artefactuelle, c'est-à-dire la nature fabriquée de l'image photographique. Et d'ailleurs, Roland Barthes n'est pas de ceux-là. Une photographie, cependant, n'est pas réductible à une image, c'est-à-dire au double analogique de ce qu'elle représente. Elle est pour moi un objet fabriqué, un objet technique. Et affirmer cela, ce n'est pas reléguer au loin la part humaine, ce n'est pas déceler chez elle son inhumanité, puisque, comme le dit Bernard Stiegler, la question technique est la question philosophique par excellence. Ainsi, nous visons à l'ITEM, à élaborer une approche théorique qui réintroduit la main, le geste, le corps, le regard, le projet et l'intention, soit la part humaine dans l'analyse photographique. Décrire, effectuer l'analyse critique des processus de création signifie s'inscrire dès lors dans des démarches génétiques qui étaient pourtant jusque-là réservées à l'analyse des manuscrits d'écrivains. La position est justifiée, d'autant plus qu'un manuscrit d'écrivain est investi, bien sûr, d'une dimension esthétique. Voilà, mais cette dimension humaine de la technique nous conduit à nous engager donc sur des terrains philosophiques, mais par ailleurs, cette attention portée au signifiant, au dispositif, à la mise à distance, corollaire du signifié, pour parler schématiquement, donc, nous introduit au cœur d'une médiologie, c'est-à-dire nous portons l'attention aussi sur une analyse du médium. Et d'évidence, nous ne pouvons pas ignorer l'histoire de la photographie. Alors si Ducamp et Flaubert s'inscrivent bien dans une telle histoire, et même dans la grande histoire, comme le disait Jérôme Tellot, donc nous formons l'hypothèse ici qu'ils la marquent en retour d'une croix, d'une pierre blanche. Ils marquent l'histoire de la photographie d'une pierre blanche. Nous vérifierons cette hypothèse en posant la question du comment cela s'est-il passé, en essayant d'aller au cœur des objets. Et donc je pars sur une autre hypothèse, que tout ce qui concerne cette histoire de la photographie, cette philosophie de la photographie, tout n'est pas dans les textes, Mais les objets eux-mêmes peuvent nous renseigner et nous devons donc aller voir les photographies de plus près, leur support et leur matérialité, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de l'immanence dont parlait Françoise tout à l'heure. Voilà, je propose donc en un quart d'heure de développer quatre parties. Premièrement, bref rappel des faits pour que nous soyons tous d'accord, nous ayons des positions communes. Deuxièmement, évaluation de l'héritage du passé et des permanences. Alors ces faits vont concerner le voyage de Ducamp et Flaubert en Orient et les photographies réalisées là-bas. Deuxièmement, héritage du passé et évaluation des permanences. Troisièmement, évaluation des ruptures de la modernité. Et dans la quatrième partie, j'évoquerai très rapidement les liens entre écriture et photographie chez Ducamp, peut-être Flaubert, et l'analyse comparée Ducamp-Zola. Et je laisserai la parole surtout sur ces terrains-là à la pagesse et à la discussion qui suivra. Donc, rappel des faits. En 1849, donc Maxime Ducamp, qui a déjà publié « Souvenirs et paysages d'Orient » l'année précédente, en 1848, puisqu'il a effectué quelques années avant, en 1844, déjà un voyage en solitaire en Turquie, en Grèce, en Algérie, qui faisait à l'époque également partie de l'Orient, de ce que l'on appelait l'Orient. Maxime Ducamp décide de repartir, cette fois-ci en Égypte, Nubie, Palestine et Syrie, avec Gustave Flaubert. Les deux amis quittent Paris le 29 octobre 1849, accompagnés d'un domestique, Joseph Sassetti, pour un long voyage en Orient, comme il est indiqué sur les visas émis en France. Visa pour un voyage en Orient. Voilà, en portant avec eux notamment une chambre noire photographique, une tente à développement, des papiers positifs et négatifs, des produits et du matériel photographique, dont un alambic pour fabriquer l'eau distillée et trois selles pour cavalier, ce qui fait aussi partie de la photographie, des dispositifs photographiques. Soit en tout, j'ai évalué 310 kilos de bagages. Le 15 novembre 1849, il débarque à Alexandrie. Quatre jours plus tard, Maxime Ducamp réalise la première photographie qui sera conservée. Alors, toutes ces photographies sont intéressantes, mais elles sont à voir dans leur continuité. Vous voyez, comme l'évolution d'un regard presque cinématographique, du regard du voyageur qui aurait saisi. Et on voit bien que Ducamp et Flaubert sont un peu timides dans les débuts, et ce qu'ils photographient, c'est leur propre hôtel. Donc ils réalisent plusieurs photographies de l'hôtel d'Alexandrie, puis de l'hôtel du Caire, où est photographié Gustave Flaubert
en Nubien.
Par Maxime Ducamp, Gustave Flaubert en Nubien, ce qui est aussi symbolique et intéressant et informatif. Voilà, donc ils s'en suivront la réalisation de plus de 200 négatifs qui ont été conservés. Nous disposons aujourd'hui de 219 négatifs, voilà, qui ont été dignes d'être conservés, ce qui ne veut pas dire que plus de négatifs ont été réalisés, et certainement beaucoup plus de prises de vue, c'est ça, ont été réalisées. Il y a du déficit, il y a du déchet dans cette pratique photographique. Ainsi, nos deux amis visiteront les villes d'Alexandrie, du Caire, ne manqueront pas de réaliser des photos des pyramides du Grand Sphinx de Memphis, etc. Puis ils embarquent à bord d'un bateau à voile, une cange, qui est piloté par une douzaine de personnes quand même. Ils embarquent donc à l'aide de leur domestique, Joseph, et puis également accompagné d'un ce qu'ils appellent un dogman, c'est-à-dire un Égyptien qui les accompagne et qui va les aider. Et les photographies seront réalisées à l'aide et grâce à toutes ces personnes qui vont porter le matériel et qui vont également aider au développement des négatifs. Voilà, donc ils longent les rivages du Nil, admirent l'île éléphantine dont ils connaissent déjà la description par Vivant de Nom, franchissent la première cataracte du Nil, le tropique du Cancer, et vont jusqu'à la seconde cataracte, toujours en bateau, où ils parviennent le 25 mars 1850, à mi-parcours du chemin, ou du moins du chemin égyptien. Au retour, donc ils visitent la Haute-Égypte, Tel Bouxor, les ruines de Karnak. Tout cela est très classique, et même classique à l'époque, puisque les monuments d'Égypte sont connus dans leur grande majorité. Et de Thèbes, alors ils obliquent directement vers l'est, ils traversent le désert de Kosser et gagnent la ville de Kosser sur les rivages de la mer Rouge. et puis reviennent par le même chemin et repartent, trajet unique et linéaire, hein. Ils repartent vers le Caire, puis vers Alexandrie, et là ensuite ils vont gagner la Syrie, la Palestine et le reste. Mais nous n'avons de photographie que de l'Égypte et un petit peu de la Syrie. Et ensuite, Ducamp abandonnera son matériel photographique. Alors j'ai compté avec Claire Bustaret, dont nous devons ici souligner les travaux qu'elle a réalisés, hein, dans la thèse qu'elle a écrite sur les voyageurs photographes en Orient au XIXe siècle. Donc Ducamp a réalisé relativement peu de prises de vue. Donc Claire a compté 53 négatifs sur l'allée, donc j'ai évalué qu'il ne faisait pas plus de 3 photographies par semaine. Il en faisait peut-être plus, mais compte tenu des déchets, nous disposons de 3 tirages positifs réalisés en une semaine au cours de l'allée de ce voyage qui a duré presque un an. Ils sont restés 6 mois en bateau sur le Nil. Voilà, cela vous donne un petit peu une idée. Alors au retour, hein, certainement ils sont plus habiles dans la pratique photographique, et là ils arrivent jusqu'à 12 ou 13 réalisations finalement de positifs par semaine, 12 ou 13 photos par semaine. Voilà, tout ceci est intéressant, non pas pour vous fournir des chiffres, hein, mais pour vous donner une idée, faire ressurgir le temps long de la photographie, temps long que l'on ignore souvent, puisqu'on assimile bien souvent, trop souvent, la photographie à un instantané ou un véritable clic-clac. Et il ne s'agit pas de cela ici. Alors Flaubert aussi aide à la réalisation photographique. Alors il écrit ainsi, par exemple, à sa mère, le 3 mai 1850, « Je n'ai rien de nouveau à te dire, si ce n'est que j'ai les doigts noircis de nitrate d'argent pour avoir aidé mon associé hier à Hermand dans ses travaux photographiques. » Voilà, et Flaubert témoigne de la passion de Maxime dans des lettres à sa mère, hein, écrites à Philae, c'est-à-dire dans la sienne. Je ne sais pas comment Maxime ne se fait pas crever de rage avec la rage photographique qu'il déploie. Du reste, il réussit parfaitement. Quant à moi, je ne fais que contempler la nature, fumer des chibouks et me promener au soleil. J'engraisse. Voilà, donc le 7 octobre 1850, sur le chemin du retour, ils font escale à Rhodes et Flaubert peut écrire à sa mère « Maxime a lâché la photographie à Beyrouth. Il l'a cédée à un amateur frénétique. En échange des appareils, nous avons acquis de quoi nous faire à chacun un divan, comme les rois n'ont pas, 10 pieds de laine et de soie brodés d'or. Je crois que ce sera chic. » Voilà, donc Ducamp fait poser des personnes, hein, sur les monuments, dans les paysages qu'il photographie. On l'a vu, donc Flaubert lui-même. Alors Flaubert est présent, donc on l'a vu dans les jardins de l'hôtel du Caire, et peut-être aussi plus loin, plus tard, à Balbec. Hein, mais là, il y a polémique, hein, sur le personnage représenté. Voilà, là, ce sont les rivages du Nil photographiés, hein, à partir de la Cange. Alors, il faut imaginer un travelling cinématographique, hein, c'est-à-dire que les paysages défilent. Hein, ce ne sont pas seulement les voyageurs qui se déplacent avec tout le matériel, mais ils observent aussi un paysage qui défile devant eux et qu'ils photographient au moment où le bateau s'arrête. Hein. Voilà une idée du matériel qu'a pu emporter Maxime Ducamp. Expose ici dans une galerie des Pays-Bas, exposition qui a été réalisée à partir des photographies du voyage en Orient. Voilà, ces photos, vous les connaissez. Voilà, donc un des temples photographié à Balbec, et c'est peut-être Flaubert qui pose. Donc vous voyez un tout petit personnage, et ces petits personnages, on les observe sur de très nombreuses photographies de Ducamp. Hein. Ils sont là pour donner l'échelle. Voilà, s'agit-il de Flaubert ou non, peu importe, à la limite. Voilà, mais surtout, je voulais vous montrer cette photographie, puisque nous avons évoqué les questions de perspective, et je vous montre comment Ducamp a redressé les verticales, hein, en photographiant un temple et des colonnes comme ceci, en contre-plongée, vous auriez des lignes obliques, hein, simplement en orientant la partie vers des polis de la chambre noire, vous pouvez régler et redonner des verticales aux perspectives et redonner une véritable dimension scientifique à la photographie. Donc on observe cela dans toutes les photographies de Maxime Ducamp. Voilà, donc, à Ipsambul, hein, une photographie où pose encore un petit personnage qui est un Nubien, hein, que Ducamp a choisi pour sa beauté. Pour sa beauté et pour donner l'échelle. Voilà, ces photographies sont aujourd'hui célèbres. Là, c'est Joseph Sassetti qui pose à Abou Simbel, c'est autre chose. Voilà, le colosse de Spéos, hein, même colosse que précédemment. J'aurais aimé vous montrer comment Ducamp a tourné, hein, autour des monuments et des objets qu'il photographie, comment il en a réalisé plusieurs images, comment il a hésité lui-même, comment il a réalisé des doubles de prise de vue, c'est-à-dire vous avez la même prise de vue réalisée deux fois, développée en négatif deux fois, tirée deux fois en positif. Voilà. Mais pour vous montrer tout cela, il eût fallu que j'aie vraiment accès à la reproduction photographique des archives de Ducamp, et ça coûte très cher, malheureusement. Donc je ne peux vous montrer que des mauvaises photographies considérées comme des objets uniques, alors que le livre de Ducamp et beaucoup de livres et d'albums photographiques se lisent dans une continuité. Il faut que j'arrête déjà.
Non, mais tu es presque arrivé à la fin de ton temps de parole, donc encore bien sûr
D'accord. Bon, je vais très vite. Voilà. Pour vous dire que nous avons la chance, sur ces questions, sur ce voyage et sur la réalisation photographique en Orient de Ducamp, de disposer d'énormément de témoignages qui viennent tant des écrits de Flaubert que de ceux de Ducamp, et que c'est une chose exceptionnelle. Ils ne sont pas les premiers à voyager en Orient, ils ne sont pas les premiers à photographier les monuments d'Égypte, mais sur ce voyage-là, nous disposons d'énormément d'informations, et notamment sur les gestes, sur la manière dont cette photographie a été réalisée, sur le temps qui lui a été consacré. J'insiste encore pour dire que Ducamp et Flaubert, sur place, ne réalisaient que des négatifs. Hein, des négatifs sur papier, papier fragile, un papier transparent. Et donc ils n'ont vu que ces choses-là, qui sont merveilleuses quand même, et qui peuvent être tout à fait empreintes d'une dimension symbolique, même d'une dimension transcendantale. Ces images font rêver, elles sont mystérieuses. Voilà. Les tirages positifs n'ont été réalisés qu'au retour. Et ces tirages papier étaient difficiles à réaliser, hein, parce qu'il utilisait la technique du papier humide, ça nous le savons. Les papiers sensibles devaient être réalisés avant, peu de temps avant la prise de vue, et devaient être réhumidifiés juste au moment de la prise de vue, et bien entendu maintenus à l'abri de la lumière et à l'abri de la poussière. Donc tous ces dispositifs-là, nous les connaissons parfaitement, je pourrais vous en parler. Voilà, ils compliquaient énormément la tâche. Et beaucoup de ces négatifs sont abîmés, il en manque des coins, etc., parce que ce sont des objets fragiles. Et cette photographie, cet objet photographique, ne se lit bien également que dans ses défauts. Hein, vous voyez, il y a des taches, il y a de la poussière, bien que les auteurs aient essayé d'éliminer toutes les imperfections. Elle persiste, et ces imperfections-là, eh bien, nous renseignent sur ces pratiques photographiques. Voilà, je vais donc très vite pour dire en deux mots également que Ducamp et Flaubert arrivent à un moment tout à fait propice, à la fois dans l'histoire de la photographie, car le négatif papier vient d'être inventé, et également dans une histoire politique. Bonaparte est passé par là. Et puis il s'est retiré, hein, mais il a aidé quand même à installer sur le trône Mehmet Ali. Et là, c'est son neveu qui est en place au moment où arrivent Ducamp et Flaubert. Donc politiquement, la situation est plutôt stable, les Français sont plutôt bien vus, et eux sont plutôt bien accueillis, et ils disposent de firmans, c'est-à-dire de laissez-passer royaux, hein, signés du roi, qui va leur permettre d'accéder un petit peu dans tous les villages. Et ces laissés-passer sont des objets magnifiques, magnifiques. J'aimerais vous les montrer. Donc, pour certains, ce sont de grandes feuilles de papier avec une calligraphie arabe. Enfin, voilà, ce sont de véritables dessins, des objets extrêmement émouvants, parce qu'on imagine que Flaubert les a tenus, que son ADN est encore là. Je ne sais pas si on peut s'émouvoir de ça, moi ça m'émeut. enfin la dimension esthétique en tout cas est présente et rien à voir avec les visas administratifs donnés en France. Voilà, je voudrais dire aussi que Champollion est passé par là et que l'Égypte s'offre comme un vaste livre à la lecture duquel pourra aider ou aidera la photographie. Alors, autre dimension politique propice, en 1839, comme vous l'avez dit tout à l'heure, François Arago, qui deviendra chef du gouvernement de la Seconde République quand même, qui est physicien à l'époque, annonce l'invention de la photographie. Et il dit que cette photographie qui naît va pouvoir aider les voyageurs, et notamment les voyageurs en Égypte, et que ceux-là pourront rapporter donc des images ou des reproductions, des hiéroglyphes, reproductions qui seront objectives et qui permettront donc de lire le grand livre de notre histoire. Parce qu'il s'agit bien justement d'une dimension symbolique importante. C'est notre histoire même, c'est l'histoire de nos origines que va rapporter la photographie. Et donc François Arago dit tout cela dans les discours très importants qu'il prononce durant l'année 1839 et qui sont beaucoup écoutés et qui requièrent une très grande audience, à tel point que dès 1840, c'est-à-dire quelques mois après, déjà des voyageurs partent en Égypte réaliser des albums et partent cette fois-ci à l'aide d'autres dispositifs, de daguerréotypes qui travaillent sur plaques de cuivre. Ces plaques de cuivre sont des objets uniques. Tandis qu'avec Ducamp et Flaubert, les objets uniques, ce sont les négatifs. Donc on a une reproductibilité de l'image parce qu'il s'agit d'une photographie qui passe par le négatif. Cette reproductibilité, elle est importante parce qu'elle est au cœur même, très certainement, c'est une hypothèse du départ de Ducamp qui veut faire valoir aussi sa propre personne, qui est en gros un personnage médiatique. Si l'image n'était pas reproductible, est-ce que Ducamp et Flaubert seraient partis en Égypte ? Ça n'est pas sûr. Et cette reproductibilité, elle est accentuée, puisqu'en 1851, mais c'est l'année même où ils reviennent en France, en 1851 est mise au point la première grande imprimerie photographique par Blancard et Vrard à Lille, imprimerie que vont utiliser Ducamp, et je dis Flaubert, parce que Flaubert est là, il râle contre la photographie, mais il est au cœur de tout cela, il l'a fabriqué, il la fabrique lui-même. Il ne peut pas échapper à cette dimension photographique qui s'installe, comme l'a montré Françoise, et qui bouleverse l'image que nous avons du monde et le rapport que nous entretenons avec le monde. Et cette imprimerie photographique va donner une dimension industrielle à la photographie. Alors que, avant Blancard et Vrard et avant Ducamp, disons, quand vous aviez un négatif transparent, un produit sur un papier ou une plaque de verre, vous apposiez ce négatif sur un papier positif sensible et vous exposiez le tout à la lumière du soleil pendant plusieurs heures. Donc les noirs du négatif ne laissaient pas passer la lumière, les blancs ou les transparents laissaient passer la lumière et vous obteniez une image positive. Blancard et Vrard met au point des dispositifs chimiques qui permettent une sensibilisation de la partie positive en une minute, ce qui se fait aujourd'hui couramment dans les procédés argentiques pour ceux qui ont un peu fait de la photographie amateur en laboratoire. Vous exposez votre négatif environ une minute. Et du coup, on peut multiplier les 219 négatifs de Ducamp Flaubert, on peut les multiplier rapidement et diffuser tout un album à un très grand nombre de personnes. Et cette imprimerie va produire plus de 100 000 photographies en très peu de temps, en 4 ans. Son fonctionnement dure seulement 4 à 5 ans. Donc voilà pour les dimensions politiques, les dimensions techniques. J'aurais voulu peut-être opposer cette photographie-là à Zola et réintroduire des problèmes théoriques, à savoir que la photographie de Niépce n'est pas la même, ses intentions ne sont pas les mêmes que la photographie de Ducamp-Flaubert. Et la photographie de Ducamp-Flaubert n'est pas la photographie d'Émile Zola, même s'il y a des permanences, même s'il y a une ontologie, bien sûr, dans l'utilisation de la lumière. Cette photographie est différente, il y a des usages différents, mais alors du coup, entre signifiant et signifié, effectivement, les choses s'accrochent, donc ce qui est représenté n'est pas la même chose. On ne photographierait pas aujourd'hui avec nos petits appareils numériques le colosse de Spéos comme a pu le faire Maxime Ducamp. J'ajoute que la dimension de la lumière Et cette lumière qui est si présente en Égypte, cette dimension est vraiment symbolique. On part là-bas parce qu'il y a du soleil, parce que c'est le pays de l'Orient, c'est-à-dire étymologiquement le pays d'où le soleil se lève, le pays du levant. Mais on part là-bas aussi en tant que photographe, hein, parce que l'Égypte va constituer un test extraordinaire pour l'utilisation, l'usage et la réalisation de photographies à l'aide des nouveaux procédés. Voilà, je m'arrête parce que j'ai trop long.
Un peu rapide.
On pourra reparler dans la discussion. Et maintenant, je laisse la parole à Alain Pagès sur les archives zoliennes. J'ai demandé à Alain Pagès de venir parler des archives zoliennes dans la mesure où Zola représente une relation à la photographie tout à fait complémentaire et différente de celle de Flaubert. Même si Flaubert utilise des photos dans son travail, le rapport de Zola est tout à fait spécifique et c'est en complément aussi de Monique Sicard. Et à partir de là, donc je te laisse la parole et puis on fera une discussion de vos deux exposés, une discussion générale après.
Merci Anne pour cette invitation. Je suis désolé, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de documents circulant dans la salle. J'ai pas prévu d'en reproduire assez. Au fond, c'est un problème de photographie. Pardonnez-moi. Pour ceux d'entre vous qui voudraient ce document, il suffirait que vous vous adressiez à moi. Je remercie Anne de m'avoir invité à ce séminaire Flaubert pour, évidemment, ne pas parler de Flaubert. J'ai compris, c'était le but. De parler peut-être de la photophilie de Zola par opposition à la photophobie de Flaubert. Si je le fais aussi, c'est parce que à l'intérieur de l'ITEM, Monique Sicard faisait rapidement référence, j'anime une équipe, l'équipe Zola, qui aujourd'hui se lance dans un projet pour 4 années soutenu par l'ANR, qui est le projet Archise, qui consiste au fond à faire une sorte de réflexion de synthèse sur les archives d'un écrivain, les archives zoliennes. Notre idée est très simple, elle consiste évidemment à réfléchir au texte, à l'œuvre, mais à côté de ces textes, à la masse des manuscrits, des fameux dossiers préparatoires, et puis au milieu, au fond, un ensemble que nous avons appelé l'iconothèque, qui est un ensemble assez complexe, presque illimité, qui est composé des illustrations, des caricatures, de tout ce qui a accompagné le développement et du naturalisme de Zola d'abord, et ensuite au moment de l'affaire Dreyfus, de tout ce qui s'est passé, bien sûr. Et bien, au milieu de cette iconothèque zolienne, de ces images donc, qui sont là, entre les manuscrits d'un côté et les textes de l'autre, il y a les photographies. Les photographies de cet écrivain, qui sont un exemple unique peut-être dans ce 19e siècle, qui entretiennent, vous le comprenez bien, avec l'œuvre une relation de commentaire, de parallélisme, et qui sont aussi une partie de l'œuvre. Alors, sur ces photographies, on a déjà beaucoup parlé, bien des travaux ont été publiés. Ceux d'entre vous qui s'intéresseraient à cette question peuvent lire, par exemple, dans un déjà relativement ancien numéro des Cahiers naturalistes qui a été publié en 1992, un très bel article d'Alain Buisine sur cette question. Je signale aussi un texte de Charles Grivel publié dans Études photographiques en 2004. Anne a évoqué l'ouvrage de Philippe Hamon. Je renvoie aussi à l'intervention qu'a faite Monique Sicard. J'espère qu'elle la publiera bientôt au séminaire Zola et il y a quelque temps. Alors, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est 3 choses. D'abord, présenter rapidement ce corpus photographique. Bon, malheureusement, je ne vais pas les faire défiler sous vos yeux, ces images, mais j'essaierai de les évoquer simplement par la parole et puis poser 2 questions. La question de la relation entre ces images et l'œuvre, je parlerai de coupure, et puis peut-être j'essaierai de suggérer l'idée d'un lien. Alors le corpus lui-même, il est important, encore mal connu, encore dissimulé malheureusement par les archives familiales. Je dirais que certains descendants possèdent des photographies qui ne sont pas accessibles malheureusement. On peut estimer à peu près à 7000 le nombre de clichés photographiques que Zola a réalisés. Aujourd'hui, on en a conservé à peu près 500. Peut-être pourrions-nous avoir la chance d'en avoir 200 de plus, enfin, si on arrivait au fond de ces archives familiales encore secrètes. Mais voilà, hein, le corpus photographique ne dépasserait de toute façon pas 1000 photographies. Et bien des photographies se répètent. Ces photographies, elles sont assez connues, assez célèbres. Elles ont été reproduites par le petit-fils de Zola dans deux recueils qui ont été publiés il y a déjà plusieurs années, en 1979. Un deuxième a été publié en 1988. Et toutes les expositions qui portent sur Zola aujourd'hui, évidemment, utilisent ce corpus photographique. Je pense notamment à l'exposition magnifique que la BN a réalisé en 2002, au moment du centenaire de la mort de Zola. Et si vous voulez avoir une vision de ce corpus photographique, eh bien, allez sur le site de la BN où cette exposition de 2002 se trouve encore reproduite. Voilà, hein, pour dire simplement un mot de ces photographies qui ont été diffusées, enfin, qui sont assez connues. Donc, j'espère que ce que je vais dire ne sera pas trop confus, même si je ne les montre pas. Il est l'auteur de ces photographies, Zola, sans doute, de ce millier de photographies. Et en même temps, ces photographies, elles ont pris naissance dans une atmosphère familiale. C'est-à-dire qu'on peut penser que certains des clichés que nous avons aujourd'hui de Médan ont été pris par Alexandrine, par sa femme. D'ailleurs, il suffit, au fond, de voir que les clichés où Zola lui-même figure ne sont sans doute pas des clichés pris par lui-même, bien qu'il puisse le faire aussi par certaines techniques, ont été pris par Albert Laborde, qui est son cousin, qui est un jeune homme qui joue un rôle important auprès de Zola dans la fin de la vie de Zola. Au fond, il y a, c'est une expression qui a été employée, une sorte d'atelier Zola, sans doute, hein, autour de Médan, un atelier familial qui est producteur de photographies. Et cet atelier familial, d'ailleurs, est fondé au fond sur un laboratoire qui existe dans les sous-sols de Médan où Zola tire lui-même ses photographies. Et on sait que Zola est plus qu'un amateur éclairé, qu'il possède un grand nombre d'appareils photographiques. J'aurais pu montrer une image au fond comparable à celle que Monique Sicard a montrée tout à l'heure à propos de l'appareillage de Ducamp. Zola possède un grand nombre d'appareils photographiques et il est donc un technicien à certains égards de la photographie. Dans un des ouvrages que l'on a publié sur Zola et la photographie, on a pu même retrouver des notes de Zola réfléchissant à la question du tirage, enfin des notes très techniques, hein, de cet amateur technicien qu'il était devenu. Au fond, comment se présentent-elles ces photographies? Quand on les regarde dans les expositions, dans les albums, on les classe en général d'une manière thématique, ce qui est logique. C'est ce que font évidemment tous les volumes qui les ont diffusés. Donc, allez, je les évoque rapidement. Il y a une série familiale, Zola et ses amis dans le jardin de Médan, une série familiale plus caché, qui est Zola et sa seconde famille, vous savez, Jeanne Rosereau, ses enfants, Jacques et Denise. Il y a une série très intéressante qui est celle de l'Angleterre, au moment de l'affaire Dreyfus, en 1898-99, Zola va partir une année en exil en Angleterre et il prend énormément de clichés photographiques. Et puis il y a une dernière série qui est superbe aussi, extraordinaire, qui est celle de l'exposition de 1900, que Zola photographie d'une manière extrêmement complète, avec de prodigieuses photographies de la Tour Eiffel en particulier, notamment des photographies de la Tour Eiffel de nuit, hein, éclairées telles qu'elles pouvaient l'être. Donc, ces photographies, nous les connaissons à travers certains ensembles thématiques. On peut dire qu'aujourd'hui, la connaissance que nous avons de l'œuvre de Zola permet de classer ces séries d'une manière chronologique. Au fond, il serait assez facile de faire l'histoire des quelques séries de photographies que Zola a réalisées. On voit que ça commence à peu près vers 1895-96, au fond assez tard dans la vie de Zola, et puis 1897-98, un peu avant l'exil, 98-99, 1900. Vous voyez, hein, les dates que j'évoque, même si vous ne connaissez pas en détail la vie de Zola, vous sentez bien en tout cas que ces séries photographiques appartiennent aux dernières années de la vie de Zola. Il meurt en 1902, ça commence vers 1895. Les Rougon-Macquart, eux, sont terminés depuis longtemps. Ils sont terminés en 1893. Donc on a quelque chose qui est de la fin de la vie de Zola. Et sur ces photographies, on voit des personnages, on voit la famille, mais on voit les lieux. Et au fond, on a une sorte de double vision qui est celle des personnages et des lieux. J'ajouterai un mot avant de terminer cette description du corpus en disant que si ces photographies aujourd'hui nous les voyons sous forme de série chronologique ou sous forme d'ensemble thématique, nous avons quand même la connaissance que quelques albums ont été réalisés par Zola, mais malheureusement ils ne sont pas accessibles. En tout cas, il y a au moins un album tout à fait intéressant qui est l'album de Denise et Jacques. Zola lui-même l'avait relié. Il s'intitule ainsi Denise et Jacques. Histoire vraie par Émile Zola, juin-septembre 1897. Voilà un album qui malheureusement n'est pas accessible aujourd'hui, mais dont nous connaissons l'existence d'un recueil que Zola a composé sur quelques mois en 97, c'est juste avant l'affaire Dreyfus, des photographies de ses enfants. Et puis il y a un autre album aussi qui a été décrit par le petit-fils de Zola, qui est intéressant, qu'il a décrit sous le terme de « album rouge ». C'est un album qui donne une série de photographies sur une année, l'année 1895, à Médan, et une année un peu de pause dans l'œuvre de Zola. Zola photographie systématiquement le cadre de Médan, les sorties de campagne, les parties de campagne, si je puis dire, avec les amis, avec la famille. On a donc là, au moins, avec ces albums, la trace d'une petite œuvre photographique qui serait liée à l'idée du livre. Alors, cela étant posé, deux questions, ce sont les deux questions que j'aimerais évoquer devant vous. D'abord, ce que tous les spécialistes ayant travaillé sur Zola et les photographies ont dit, coupure, pas de lien, hélas d'ailleurs une sorte de grande déception, pas de lien entre la photographie et l'œuvre, pas ce qu'on pourrait espérer, ce lien génétique entre une photographie qui serait devenue documentaire, qui peu à peu aurait nourri les fameux dossiers préparatoires jusqu'à se substituer peut-être à tout autre document. Donc pas de lien, vous l'avez compris, pas de lien chronologique, puisque la photographie est bien tardive dans la vie de Zola, bien après les Rougon-Macquart, et même pour les derniers dossiers préparatoires, ceux des derniers cycles, les Trois Villes et les Évangiles, dont la photographie contemporaine, même à ce moment-là, même dans les derniers dossiers préparatoires, elle n'intervient pas comme document de genèse. Pas de lien chronologique, donc pas de lien esthétique aussi. On en a fait la remarque. On aimerait voir dans le corpus photographique de Zola un Zola photographe du Paris populaire, du Paris de l'Assommoir. Non, il photographie son quartier, qui est plutôt le quartier bourgeois dans lequel il vivait. Il photographie l'exposition de 1900, bien sûr, mais il n'est pas sans doute, entre guillemets, naturaliste. La comparaison a été faite avec l'œuvre d'Eugène Hadjet, qui tout à fait intéressante, évidemment, comme élément de comparaison. Alain Buzyn a remarqué que, c'est sa conclusion, je pense qu'on peut y adhérer, que les clichés d'Hadjet qui portent, je cite Buzyn, sur le réel, une sorte de regard inquiet qui, par moment même, possède une dimension criminelle, qui en tout cas met en évidence, au fond, ce Paris populaire de la fin du XIXe siècle, eh bien ces clichés, on en a aucun équivalent chez Zola. Au contraire, on a l'impression que sa photographie à lui est une photographie du calme, de la sérénité, une photographie familiale. Car s'il photographie Zola, a-t-on cette impression, c'est d'abord ses amis, donc le jardin de Médan, le cercle d'Alexandrine, sa femme légitime, et puis l'autre cercle, l'autre côté de sa vie à lui, le cercle de Verneuil, là où se trouvaient Jeanne et les enfants. Donc au fond, la photographie célèbre la famille, soit la famille officielle, soit la famille cachée. Elle est un moment de calme, de sérénité, et elle aura sans doute cette même fonction au moment de l'exil en Angleterre, période très difficile. Zola pense même qu'il ne rentrera jamais en France, d'ailleurs, quand il est là-bas, dans la banlieue de Londres. Eh bien, la photographie est peut-être une façon pour lui de se réconcilier avec le réel. Une phrase que je cite, elle est dans mon exemplier, de Zola en 1888, sur la photographie, une déclaration flaubertienne, pourquoi je l'ai inscrite sur cet exemplier, mais c'est au début, du moment où il va entrer peut-être dans la photographie, donc elle est à considérer avec nuance, une enquête du Mercure de France en janvier 88 sur le roman illustré par la photographie. Zola dit, Je le cite, « Vous me forcez à dire ce que je pense de l'illustration du roman par la photographie, j'aurais préféré ne pas répondre, car je ne crois guère au bon emploi ni au bon résultat de ce procédé. on tombera tout de suite dans le nu. Voilà, hein, on tombera tout de suite dans le nu. Belle remarque, belle déclaration d'un Zola qui, effectivement, a cette idée que la photographie, c'est le nu, et lui défend la vision de l'œuvre d'art, vous le savez, coin de la création vue à travers un tempérament. Mais, bon, en même temps, c'est en janvier 88 qu'il dit cela, et c'est au cours de l'été 88 qu'il commencera à vraiment découvrir la photographie, et c'est en 95 qu'il commencera à la pratiquer. Alors, sur la question de la photographie comme thème dans l'œuvre littéraire, ben, je vais passer, je crois, car je n'ai pas le temps de développer cela, j'ai simplement rassemblé sur le document que vous avez entre les mains, trois citations que j'évoque rapidement, prises dans trois romans. Hein. Deux romans qui sont antérieurs au moment où Zola s'initie à la photographie, et puis un roman qui est contemporain de cette période. Les deux citations bien connues sont celles de La Curée, d'une part, 72, et Madeleine Ferrat, 1868. Et puis, la troisième citation, c'est Fécondité, en 1899. Donc, je vous laisserai découvrir ces textes, vous les lirez ou vous les relirez si vous ne les connaissez pas. Mais dans La Curée, René et Maxime, pour se distraire, feuillette un album de photographie, jeu pervers de la photographie. Dans Madeleine Ferrat, c'est plus intéressant peut-être encore, et c'est même, oui, bien plus intéressant. Madeleine, qui est l'épouse de Guillaume, voit le passé ressurgir dans la personne de son ancien amant, Jacques, qui apparaît par une photographie. Hein. Donc, utilisation au fond d'un thème qui serait celui de la photographie maléfique. Et dans Fécondité, 99, même chose. Hein. Zola n'utilise pas la photographie comme le lieu d'une thématique heureuse. Mathieu Froment, dans Fécondité, ne photographie pas sa famille nombreuse. Au fond, il fait des enfants, mais il n'a pas besoin de les reproduire par la photographie. C'est au contraire celui qui ne fait pas d'enfants, Morange, le comptable, dont la femme et la fille Valérie et Rennes sont mortes des suites d'un avortement, qui va constituer une sorte de musée terrible, horrible, du souvenir, en photographiant ces mortes, et il ne reste qu'avec ces mortes. Voilà, comme le souvenir qu'il aura d'elle. Alors, ma dernière partie d'exposé, hein, je crois qu'il y a une dizaine de minutes, sera pour essayer de réfléchir quand même à cette question d'un lien possible entre la photographie et Zola. Et cette question-là, je la pose en essayant de bien vous faire comprendre que, au fond, cette expérience de la photographie, elle est de la dernière partie de l'œuvre de Zola, de la dernière partie de la vie de Zola. Ça se joue, au fond, dans les dernières années de la vie de Zola, et j'ai presque envie de vous dire que s'il avait vécu, il aurait pu vivre, vous le savez, il a été fort probablement assassiné en 1902. S'il avait vécu, sans doute, la photographie aurait-elle pris une place plus importante. En tout cas, ce serait la thèse que j'aimerais défendre, tout en adhérant, hein, en gros, à ce que d'autres ont dit, ou Charles Grivel ou Alain Buisine. Charles Grivel, par exemple, qui a dit que Zola oppose à la photographie, je le cite, une triple fin de non-recevoir comme outil documentaire, comme mode de reproduction du réel, comme illustration de l'œuvre. Donc ça, c'est vrai. Hein, cette coupure, bien évidemment, elle est fondamentale, mais j'aimerais essayer de défendre un tout petit peu l'idée d'une place tout d'un coup importante de la photographie dans les derniers instants de l'existence de Zola. D'abord, l'idée toute simple, au fond, hein, que bien nombreuses sont les photographies qui sont, quand on les regarde, des reportages, hein, qui ne sont pas des photographies familiales, qui sont une attention au lieu, les photographies de l'Angleterre, la carriole du laitier, le policeman qui traverse la rue, le Crystal Palace, ce grand immeuble de verre auprès duquel Zola vivait quand il était à Londres. Ce sont des photographies qui montrent bien, en tout cas, la volonté d'explorer, hein, de constituer au fond un dossier aussi complet que possible. Photographie de l'exposition universelle aussi, dont je parlais à l'instant. Donc, ces photographies sont évidemment, de la part de Zola, la volonté de constituer par la photographie une forme d'exploration du réel. Et j'aimerais développer un tout petit peu cela en évoquant deux choses. D'une part, des compositions photographiques que Zola a réalisées tout à la fin de son existence. Ce sont les documents que j'ai reproduits dans la dernière partie de mon exemplier, qui sont des documents, au fond, assez étonnants. Hein. Je vais les commenter. Bon, je ne reviens pas hein, sur ce que j'ai dit à l'instant, ce fameux album de Denise et Jacques avec le titre parodique, naturaliste, Histoire vraie par Émile Zola, qui fait penser à la nouvelle de Maupassant, Histoire vraie, mais j'insiste peut-être sur ces compositions photographiques réalisées par Zola tout à la fin de son existence, la plus connue, la plus célèbre, c'est celle que vous avez sous les yeux, qui montre, elle montre une pile d'exemplaire des Rougon-Macquart. Quand on regarde dans le détail, on lit les titres hein, sur les tranches, le premier ouvrage et la fortune des Rougon, puis ensuite on remonte, hein, la curée, le ventre de Paris, etc. Donc au fond, on a les 20 Rougon-Macquart, bien qu'il n'y ait que 11 volumes empilés, mais sans doute pour des raisons d'équilibre. Vous avez évidemment, ce qui est intéressant, deux images qui sont incrustées sur cette pile. Hein. D'une part, un daguerréotype qui montre Zola enfant à l'âge de 6 ans, juste avant que son père ne meure, l'enfant Zola. Et puis, une médaille, la médaille réalisée par le sculpteur Alexandre Charpentier, qui a été remise à Zola en janvier 1900, 2 ans exactement après la publication de J'accuse. Donc c'est une médaille qui s'inscrit évidemment dans l'histoire de l'affaire Dreyfus, qui célèbre le défenseur de Dreyfus. On voit très bien la signification de cette composition hein, qui est postérieure à janvier 1900, donc qui date de 1900, de 1901 peut-être, et qui est en tout cas pour Zola, après l'affaire Dreyfus, une façon de réfléchir à ce qui est sa carrière, son parcours, son destin d'écrivain. Autre composition, elle est tout à fait comparable, elle est même un peu postérieure sans doute, elle doit dater du printemps de l'année 1901, donc Zola est vraiment à la fin de son existence. Elle montre cette fois-ci des traductions des romans de Zola, allemande, anglaise ou espagnole. Hein, si vous pouviez lire en détail, vous verriez les titres Paris, Work, Trabajo pour l'espagnol. Ce sont des romans qui appartiennent au dernier cycle, hein, c'est-à-dire les trois villes et surtout les évangiles. Et on retrouve le daguerréotype ou l'équivalent, cette fois-ci c'est Zola à côté de son père dans cette composition. Et puis, dernier exemple que je vous donne, c'est une sorte de photographie que Zola a prise dans son cabinet de travail, où l'on revoit la médaille Charpentier devant le fameux tableau de Manet qui date de 1868. Donc le message hein, de ces compositions photographiques de la fin de la vie de Zola est très clair. C'est le parcours d'une existence, c'est le fils qui regarde le père, car l'affaire Dreyfus l'a conduit à réfléchir à nouveau à la figure de son père, l'ingénieur Zola, mort alors qu'il avait 7 ans. C'est évidemment la question de l'engagement littéraire, c'est surtout peut-être la production des cycles romanesques qui est ainsi figuré, les Rougon-Macquart et les derniers cycles qui sont diffusés dans le monde entier. Au fond, l'œuvre de Zola parlait dans toutes les langues. Hein, c'est sans doute le sens de la dernière composition photographique. Alors, je crois que je dois m'arrêter. Juste un mot, et puis je terminerai en disant que un album existe que Zola aurait voulu réaliser à la fin de sa vie, dont nous n'avons au fond que des traces, hein, c'est une œuvre inachevée, un projet en tout cas tout à fait intéressant d'un album de l'exil. Zola aurait voulu réaliser, c'est la citation que je vous ai donnée, vous l'avez à la fin de l'exemplier, d'une interview que Zola donne à un journaliste qui s'appelle Dubois, qui vient l'interroger à Médan en juillet 1999. Il évoque avec lui cet album de l'exil et on voit en tout cas que ce projet était assez avancé d'un livre illustré sur l'Angleterre dont il avait parlé avec son éditeur Andrew Chateau, dont il avait parlé beaucoup, surtout avec son traducteur Ernest Visitelli. Et je peux ajouter qu'il existe dans la collection de Pierre Berger, d'ailleurs, un ouvrage assez étonnant que Visitelli a réalisé, qui est une sorte, au fond, de tentative de création de cet album que Zola n'a pas pu réaliser. Voilà. Je termine en insistant bien sûr sur cette idée de la coupure, comme bien d'autres l'ont fait avant moi, mais en essayant peut-être de défendre aussi l'idée d'un lien plus important qu'on ne le croit généralement entre l'œuvre littéraire ou la réflexion sur la réalité et la pratique de la photographie. J'aimerais essayer de vous faire sentir que Zola, dans les dernières années de son existence, sans doute transformé par l'expérience de l'exil anglais, pense à la photographie d'une manière forte et l'inscrit dans le projet de ses dossiers, de ses cycles qu'il aurait réalisés si le fumiste Buron Faust n'avait mis fin à ses jours en septembre 1902. Voilà, je m'arrête.
Merci beaucoup. Alors, merci à tous les quatre. Et j'ouvre la discussion maintenant sur les deux dernières interventions, mais aussi on peut faire une discussion générale. On n'a pas dit que Flaubert utilisait la photographie. Il ne prenait pas de photos, mais il utilisait des photos de lieux, en particulier de Salambo, pour le regard. Hein, Pierre-Marc de Biasi.
Sur ce que disait Monique pour le voyage en Égypte, c'est normal qu'il y ait moins de photos dans le voyage aller, pour le voyage retour sur le Nil, puisque vous avez décidé d'aller jusqu'au sud pour remonter beaucoup plus lentement en s'arrêtant et en prenant le temps justement de s'arrêter. Donc c'est un peu statistiquement en moyenne qu'il y a 3 photos par semaine. Il y en a plus si on les... Ouais. Et c'est une décision un petit peu de stratégie. Il fallait faire une sorte de repérage au départ et puis ensuite ça va où on s'installe. Ouais. Mais c'était très, très intéressant ce que tu nous as raconté sur notamment sur le côté reproductif, le négatif. Simplement, tu as dit, c'est loin d'être la première fois qu'on photographiait l'Égypte, certes. Et pourtant, l'émission française de photographie des antiquités pharaoniques, ça, je crois que c'était quand même une des premières expériences. Et pour une raison claire, c'est que il n'aurait pas obtenu la mission de l'Institut officiel comme ils l'ont obtenu pour le faire. Et d'autre part, il n'y aurait pas eu la publication très officielle qui a eu lieu après, si ça n'avait pas été le cas. Et enfin, parce qu'il me semble quand même que le matériel photographique de Dugand, bien que pesant au total 310 kilos, c'est l'entour d'estimation, était bricolé pour être, pour une des premières fois, transportable.
Mais c'est une question de compréhension. Oui, bon, d'une part, nous avons des dessins, des appareils qui ont précédé. Hein. Il y a eu la mission Bonaparte, il y a Vivant de Nombre, il y a toute une iconographie quand même qui existe. Et puis alors, j'ai bien dit, dès 1840, c'est-à-dire que la photographie, l'invention de la photographie est annoncée officiellement en 1839, et dès 1840, Leroy Bourpart réalise déjà un album. Mais il part en réalisant des daguerréotypes, c'est-à-dire des photographies uniques sur plaques de cuivre argentées, et qu'il ne peut pas publier telles quelles, il ne peut pas les reproduire. Et donc son album résidera dans la confection de gravures effectuées par des maîtres graveurs à partir du document daguerréotypique. Et ça, c'est dès 1840, donc avant le départ de Dugand et Flaubert. Et là, vous avez sous les yeux un daguerréotype encore, magnifique, hein, réalisé par Giraud de Pranget en 1842-1843. Donc quelqu'un qui parvient aussi à réunir suffisamment d'argent pour effectuer ce voyage en Orient, parce qu'il fallait quand même disposer de certains moyens financiers et matériels. Giraud de Pranget réalise des daguerréotypes de l'Égypte qui sont magnifiques, et malheureusement il meurt à l'âge de 24 ans, en 1846 au Caire. Voilà, et donc il y a eu des prédécesseurs,
oui.
Des Français prédécesseurs.
Là, il s'agit de centaines d'images.
Et là, ce qui est nouveau, c'est le négatif papier, hein, qui allège, parce que là, vous avez des plaques de cuivre, c'est très lourd, c'est précieux. Le négatif papier permet quand même d'alléger le voyage, d'accumuler les négatifs et puis surtout de les transporter relativement facilement.
Mais il leur posait aussi beaucoup de problèmes parce que le papier séchait, parce que
le papier
était
sensible, à la poussière, au sable.
C'est encore une quinzaine de livres à cause.
c'était non. Au, alors on a les écrits de Ducamp là-dessus. Il disait qu'il fallait poser au minimum 2 minutes. Oui. 2 minutes de pause.
Voilà.
Alors évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il écrit quand même. Il écrit 2 minutes de pause. Que te dire ? Donc ce qui est nouveau, oui, c'est le papier, c'est le dispositif. Et oui, alors l'Académie des inscriptions et belles-lettres est sollicitée par Ducamp, qui veut faire un voyage officiel, qui souhaite avoir un ordre de mission sans frais, comme on dirait aujourd'hui. Ordre de mission sans frais, mais un ordre de mission quand même, qui va le protéger. Et il demande à l'Académie, que dois-je faire ? Quelles indications, quelles prescriptions me donnez-vous ? Et l'Académie dit, ben, elle écrit, hein, j'ai les textes ici, mais bien sûr, l'Égypte est connue, ses monuments sont connus, mais certains n'ont pas encore été photographiés. Hein. Et ce que font Ducamp et Flaubert, c'est de rapporter des photographies de monuments qui ne sont pas encore connus, vous voyez, en France. Donc il y a quand même une nouveauté, il y a un apport, même scientifique, un apport archéologique. Oui. Il photographie un monde qui s'écroule. Et ça, c'est le monde du 19e.
Ça, c'est
vous pourriez peut-être le dire mieux que moi.
Il n'est de photos que de ruines.
Mais oui, c'est ce que disait Arago, d'ailleurs.
Jacques Ness, puis Françoise Gaillard, puis quelqu'un d'autre.
Question purement informative à l'économie. Cet apprentissage de la photographie, quand on l'a vu avec qui, comment.
Alors,
et l'autre aspect, c'est que ces photographies sont extraordinairement cadrées. Y avait-il une sorte d'école du cadrage, ou bien c'était une pratique de peintre et,
il y a eu apprentissage. Donc, quand Ducamp décide de partir, il va apprendre la photographie. Et il l'apprend, on le saura, chez Gustave Le Gray, qui n'est pas n'importe qui. Donc, un très grand artiste photographe qui invente des techniques de photographie, de montage. Voilà. Et si vous aviez une photo de Le Gray, mais quand je parle de photo, je ne parle pas de mauvaise reproduction, c'est des originaux. Vous verriez la mer miroiter, vous verriez la qualité.
Il sera exposé à la MEP très bientôt.
Donc, allez voir les originaux, parce qu'on parle toujours de photos, justement en confondant l'objet de la photo et la photo même.
Oui, Le Gray sera exposé. Voilà, il sera exposé à la Maison européenne de la photo.
Oui, c'est absolument vrai.
Et Ducamp va à la barrière de Clichy, là où Le Gray a son atelier, il apprend là, il apprend. Donc il y a un apprentissage. Il ne s'aventure pas, il s'aventure en amateur, comme on dira, mais en amateur éclairé.
Oui.
En amateur éclairé. Mais il abandonne plus ou moins la photographie ensuite, même s'il utilise des photographies pour, dans ses souvenirs littéraires ou dans la préparation.
Moi, je voulais poser une question. Oui, le Gray est un extraordinaire photographe et ça sera passionnant de voir un ensemble de photographies exposées. Mais moi, la question que je voulais poser à vous deux, Pierre-Marc et à toi, c'est que lorsqu'il part, bon, moi je savais qu'il avait été dans l'atelier de Le Gray, etc., l'histoire du matériel, mais je voulais savoir une chose que je n'ai trouvée nulle part. Avait-il déjà en tête l'idée qu'il allait gagner de l'argent avec la publication des photos sous forme d'album ? Parce que ça a été un succès formidable, cet album. Donc, savait-il déjà que ça allait rapporter ?
Bah, moi, je crois, oui. J'en parle dès le départ, dans la préparation du voyage, mais vraiment de l'objectif de son voyage.
De fric.
Avec les
Oui.
Je faisais le voyage pour.
Oui.
Là, visiblement, c'est pas. Je vais faire un peu.
Mais l'histoire le sert, parce que cette dimension industrielle de la reproductibilité.
Oui, arrive à point nommé.
Elle est mise au point en 1851, au moment où il revient en France. Donc, il n'a pas pu, je pense, il n'a pas
le
pu
prévoir. C'est ça la question. Ma question, c'était ça.
Très jeune, il a compris donné, ça ne pouvait aller que dans un, une voie de démocratisation, de multiplication. Donc, il parie véritablement son propre succès sur cette, cette évolution.
Quelqu'un avait mis en fait de juste apporter une décision concernant le scrutin. Maxime Dupin était parti photographier en 1849 les monuments égyptiens avec le procédé donc, de négatif sur papier qui rendait beaucoup plus maniable la photographie, qui avait été mis au point par, par le photographe Fox Talbot et qui avait été réadapté par Gustave Lebray en France. Et Maxime Dupin venait juste d'apprendre cette technique qui, avait, qui était encore nouvelle en France et avait permis d'avoir et après lui, donc Gustave Lebray était également parti en Orient et est mort au Caire en ayant installé un studio photographique sur place. Pour vous demander s'il avait été inspiré par, par le voyage de Dupin. Et vous voulez aussi apporter une précision à M. Fugazi. Maxime Dupin, en effet, était lié à Émile Prisavel, un archéologue français qui avait participé, je crois, à l'Institut français du Caire. Beaucoup servi les archéologues qui sont venus après lui, au moment où l'Institut français du Caire s'est
Merci. Donc émerge une autre question.
Oui, monsieur.
Non, j'ai pas une question, je voulais aussi ajouter un complément presque ironique en quelque sorte. Il existe une manière de commentaire de, ce, de cet album de Maxime Dupin, oui. De la part de Baudelaire. C'est le dernier poème des Fleurs du Mal, Le Voyage, qui est dédié à Maxime Dupin de façon tout à fait ironique de la part de Baudelaire. Et oui. Le narrateur, si l'on peut dire, enfin de, l'énonciateur, disons, de ce poème, dit à un moment, montre aux voyageurs qui sont revenus. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires. Et c'est une manière de clin d'œil, n'est-ce pas? La mémoire baudelairienne est comme la mémoire proustienne, c'est une mémoire totalement pathétique et subjective. Et cette dédicace à Dupin est une espèce de critique baudelairienne contre la mémoire objectiviste du voyage de celui-ci. Pour rappeler ça, chacun sait, mais je veux dire, il faut le rappeler quand même. Baudelaire a en quelque sorte produit le. L'autre idée du voyage au XIXe siècle.
Il faut rappeler aussi quand même que les photos du camp étaient doublées par un récit de voyage, il a écrit ce voyage, comme s'il avait voyagé seul. En fait. À aucun moment, Flaubert n'existe dans le récit de voyage de Maxime, et l'absence de Flaubert dans la photographie a pour équivalent sa façon pure et simple qui rendait furieux. Flaubert, mais en même temps, Flaubert n'était pas ça. Il n'avait rien pu dire, il était tout à fait inconnu. Donc, cette espèce de Bernard-Henri Lévy qui était du camp n'avait aucun intérêt à présenter la présence de son copain Flaubert, puisqu'il était pas
connu. C'est stupéfiant et quasi scandaleux. Oui.
Non, excusez-moi, je ne veux pas. J'avais un autre complément alors, au sujet de Zola, de ce projet d'album au moment de l'exil. Parce que, évidemment, ça fait penser à Victor Hugo. Victor Hugo est l'auteur d'une œuvre photographique. Lui aussi fut un écrivain photographe. Et lui aussi, au moment de l'exil, alors apparemment Zola n'a pas les photos de l'exil, mais pour Hugo, au contraire, de, si j'ai bonne mémoire, 1851 ou 2, non, plutôt 2 certainement, jusqu'à 54, il photographie d'abord à Jersey, ensuite à Gamizet. Et il en est sorti une œuvre extrêmement importante qui, elle, est dans un rapport de continuité totale avec son œuvre de poète. Mais en tout cas, cette question du rapport, excusez-moi, entre exil et photographie est essentielle parce que une des vertus de la photographie n'est pas seulement la reproductibilité, c'est aussi la maniabilité, la transportabilité. Et pour Hugo, qui n'était pas là, il était fondamental de diffuser la pensée hugoïenne à travers le monde par le biais des images qui étaient les siennes. Avec une photo de Hugo, on avait en quelque sorte en résumé toute la pensée républicaine de Victor Hugo, et c'était, on pouvait franchir les frontières avec ça.
Non, mais il est certain que Zola a dans la tête, ces grands exemples, on les a, ces photographies, mais on n'a pas l'album. Hein, on a la trace de la construction de l'album, c'est tout ce que l'on a. Bon, mais on a justement une série très importante de photographies de l'exil, qui est une série intéressante dans la mesure où justement la famille, qui pourtant était présente, car Jeanne et les enfants sont venus assez longtemps pendant l'exil, n'est pas présente sur ces photos de manière générale. Hein. Ce sont donc vraiment des photographies qui portent un regard sur l'Angleterre tout à fait intéressant, à la fois sur l'Angleterre proche dans laquelle il se trouvait, hein, bien sûr, cette banlieue de Londres dans laquelle il vivait, mais d'une manière plus générale, sur la femme anglaise, sur, etc. Enfin voilà, il y a une sorte de volonté, sans doute, d'analyse sociologique de Zola, et on a des notes qui accompagnent ce qui aurait pu être cet album de l'exil, qui montre la réflexion que Zola fait sur l'Angleterre.
Je veux dire, quand tu as décrit le corpus, je mets à part le travail documentaire, finalement, sur Londres, on s'aperçoit que c'est une pratique, au fond, très petite bourgeoise de la photographie. Moi, mes enfants, mes copains, les journées à la campagne, etc. Ce qui est quand même, bon, qui d'ailleurs va avec le mode de vie, d'une certaine manière, de Zola. Et c'est ça qui est un peu étonnant. Je dirais, le décalage entre une technique photographique extrêmement maîtrisée, un intérêt pour la photographie qui est presque de l'ordre du professionnalisme, hein, il est très, et le choix des sujets qui ressemble tout à fait aux albums que l'on peut faire, le baptême du petit dernier, le machin, etc., le canotage, la partie de campagne, etc., rester dans cette espèce d'univers que j'appellerais petit bourgeois.
Sauf qu'il y a quand même un jeu. Ce qui est assez amusant quand on les regarde de près, ces photographies, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de jeu de société, au fond, auquel Zola se livre avec ses amis dans le Jardin de Médan. Ils se mettent en groupe, ils essaient de composer des scènes particulières. Donc il y a quand même un travail collectif qui est intéressant et qui est au-delà de la simple reproduction d'une petite scène.
Les petits bourgeois jouent.
Oui. Voilà. Pierre-Marc et Gisèle.
Aussi. Et on n'a pas pu parler de la question de la relation entre la photographie et la pub, et la publicité, qui a tout de suite été une question centrale de cette vienne, et notamment qui a produit par exemple des allégations entre Rénaud et Flaubert, puisque Rénaud avait accepté que sa politique soit la recommande suisse d'un bouquin, et d'autres qui ont dit non, ça se croit pas, franchement, laisse tomber, c'est vraiment vulgaire, laisse ça aux vulgaires. Et on voit se constituer quand même une morale commerciale du clan contre le consensus, contre le nouvel esprit de l'image démocratique, qui est plein d'intérêt. Mais pour le côté petit bourgeois des images, bah c'était le cas aussi au début du cinéma.
Oui, je suis d'accord.
Ah oui, mais il y a des exceptions. Victor Hugo ne fait pas des images.
Mais c'est pour ça,
Et Carin non plus.
C'est pour ça que je dis que c'est assez spécifique.
Ah non, c'est pas spécifique, ils font tous des images petites bourgeoises. Et pourquoi pas Zola, en effet. Il y a quelques exceptions, au contraire.
Mais on est d'accord, il y a des exceptions, tout le monde ne fait pas ça.
Non, mais justement, mais il y a le corpus familial et le corpus non familial, c'est quand même ce que j'ai essayé.
Hugo est aussi pas dans la vogue de pub.
Ah, publicité, oui, mais petite bourgeoise, vraiment pas.
Non, pas du tout.
Là,
pas du tout.
Ah ben le contre-jour, c'est l'esthétique du sublime, du contraste, de l'antithèse.
Je vais demander à Alain si,
c'est romantique,
puisqu'on a une connaissance partielle du corpus, s'il ne pense pas qu'il y a des albums secrets, c'est-à-dire des images, parce qu'une des choses aussi qu'on a oublié d'évoquer, c'est le lien immédiat entre la technique et Ross.
Chez Zola, oui, c'est la
question. Mais c'est surtout aussi, si tu veux, qu'il y avait beaucoup de photographies qui étaient prises, parce que ça, après, pour les peintres, ils n'avaient plus besoin de payer les modèles. Donc, il y a aussi toutes ces photos de nus, de machins, de... Bon.
À chaque fois qu'on a inventé de la technique, on a commencé de voir...
L'origine du monde, tu sais, c'est un cliché photographique,
il y a quelques photographies érotiques, mais on sent qu'elles ont été détruites. Quelques photographies érotiques de Zola, photographies en Jeanne, bien sûr. Et
dans les ressources familiales non communiquées.
J'espère qu'on pourra ouvrir les mâles un jour. Et...
Pourquoi ne veulent-ils pas les montrer d'ailleurs ?
Alors, c'est terrible cette histoire, c'est une histoire familiale.
Ah d'accord.
Les héritiers sont toujours.
Oui, donc de Zola, nous disposons.
Monique a beaucoup travaillé sur cette question, justement.
Oui, je veux.
Il y a Gisèle qui a sur le corpus non familial des photographies de Zola. Il y a les très belles photos.
photos de vapeur de train et des photos pluvieuses avec des effets de lumière. Et je crois que cela relève de la photo impressionniste.
Ouais, je suis d'accord.
Bon, de même que le frère de Caillebotte faisait de la photo.
Bien sûr. Bien sûr.
Sur les effets de lumière. Donc je crois qu'en effet, la photographie de là n'est pas seulement petite même si.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Monique Sicard, vous voulez...
Ah, deux petites choses sur Zola, puis une question de, sur Flaubert. Et on arrête. Oui, donc de Zola, nous disposons surtout de nombreux négatifs sur verre qui demandent à être tirés, dont nous n'avons pas encore les tirages positifs, même si quelquefois ils sont réalisés. Mais il s'agit de tirages de toute manière modernes et contemporains qui ne donnent pas accès au... au vintage, c'est-à-dire aux photographies même que réalisait Zola. Je voulais dire à propos de Zola qu'il a commencé à photographier donc en 1894-1895. 1894, c'est l'année où meurt Ducamp, précisément. Et il photographie pendant un faible nombre d'années jusqu'en 1902. Et durant ces quelques années, il voit une évolution technique du monde visuel qui est considérable. Alors, naît le cinématographe en 1895, mais lui, très directement, il va passer de lourds appareils photographiques avec des négatifs sur plaques de verre à l'utilisation du petit box Kodak, la Kodak Box, enfin d'appareils beaucoup plus légers avec des négatifs sur celluloïdes. Autrement dit, il va passer d'un monde où le modèle de la photo est mis en scène par le photographe, vous voyez, on installe l'appareil, on fait poser les enfants et on réalise des portraits qui sont magnifiques. Là, ça dépasse la simple petite photo familiale bourgeoise, à un monde où l'appareil devient léger et le corps du photographe suit ses sujets. Et là, Zola suit, on voit ses amis qui dansent à Médan, etc. C'est un autre type de photographie. Troisième type de photographie, les photos d'exil, les photographies de l'ailleurs. C'est un exil, certes, mais on voyage et du coup, le regard est activé, mais on peut avoir la même chose
chez Ducamp. Pour illustrer ce que tu dis, oui. La citation que je n'ai pas pu lire, j'en ai pris 300 avec une petite jumelle 6-5-9 que j'attachais au guidon de ma bicyclette quand j'allais me promener. Voilà.
Oui, la bicyclette et la photo, ça c'est tout un... Enfin, on pourrait parler de cela. Et puis, dernier type de photographie chez Zola sont les photographies de l'exposition universelle 1900. C'est une exposition, c'est un objet éphémère. Zola le sait. Et là, il la couvre de manière... systématique. Mm. Je ne sais pas combien de photographies il réalise, 100, 200 peut-être, et ça c'est tout à fait nouveau et c'est là qu'on peut se demander si il n'avait pas l'intention de mener à bien une écriture à partir des photographies réalisées.
Son côté famille fenouillard.
Voilà. Allez. Et je voulais soulever à propos de Flaubert une question que Pierre-Marc de Biasi soulevait hier et en réponse à la remarque de Jacques Neff. Alors, Le Grès est partie prenante de cette affaire, et on peut se demander alors pourquoi cette dimension esthétique, artistique de la photographie a pu échapper à Gustave Flaubert, si elle lui a échappé. Si elle lui a échappé.
On reste sur cette question.
Enfin, non, c'est le début du séminaire. Hein.
On n'a pas parlé, pardon. Ah oui.
Quelle est la place du métaphore dans toute l'histoire de Zola comme naturaliste ? Il utilise des
métaphores.
Le vocabulaire et les métaphores.
Oui, dès le début, il y a cette lettre à Valadrec sur l'écran. Hein. Dès le début, ça part par la notion d'écran.
Avant d'être
sûr, hein, il définit le réalisme comme étant l'écran le plus transparent. Hein.
Et c'est une métaphore généralisée.
Bien sûr, bien sûr, mais qu'il emprunte à d'autres. Mais
enfin, bien sûr, non, mais il l'utilise.
Voilà, mais à partir de laquelle il construit quand même sa théorie, qu'aujourd'hui on résume, bon, la théorie de l'écran, elle a un rôle.
Merci à tous, merci en particulier à tous les quatre d'avoir fait cette table vraiment passionnante. Et je vous donne rendez-vous dans un mois, le 11 février.